L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Mesdames, messieurs, salut et bienvenue pour suivre ce Radio Journal. Le fil de l'information en trois titres, l'ultimatum de la coalition C64 de l'opposition congolaise exigeant la convocation du dialogue national avant le 15 août est sur le point d'expirer, ce qui laisse entrevoir des tensions politiques. D'autres craignent que ce retard ne soit la base de la détérioration de la situation sécuritaire en RDC. Et la communauté Banyamulenge a commémoré ce 13 août le 22e anniversaire du massacre de Gatumba au Burundi et en causé la mort d'une centaine de personnes. À cette occasion, la communauté Banyamulenge demande justice en faveur des victimes de ce massacre. Des activités ont tourné au ralenti sur une bonne partie du territoire de Mwenga à la suite de la convocation d'une journée ville morte par la société civile du milieu qui exige la réhabilitation de plusieurs points chauds sur la route nationale numéro 2. Voilà donc tout pour le sommaire, dans quelques instants les détails.
Ce journal vous est présenté par Expedi Kialou.
L'ultimatum fixé par la coalition C64 de l'opposition congolaise pour la convocation d'un dialogue national expire ce samedi 15 août 2026. Cependant, l'ordonnance qui convoque ce dialogue et fixe les modalités de son organisation tarde à être signée par le président de la République, ce qui laisse entrevoir une agitation de la classe politique nationale dans les jours à venir. L'opposition avait annoncé une série d'actions citoyennes et populaires, mais après des consultations avec les confessions religieuses, qui assure le lien avec le président de la République. Il avait décidé de sursoir à l'organisation des dites manifestations. Dans la foulée, la Cour constitutionnelle a prononcé un arrêt qui a déclaré conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum en RDC. Cette initiative a réveillé la C64 qui a promis de reprendre ses actions si le dialogue n'est pas convoqué au plus tard le 15 août prochain. Avec le retard constaté dans la signature de l'ordonnance convoquant le dialogue, des analystes craignent des tensions de nature à polluer la sphère politique nationale. C'est le cas de Désiré Ntahira, coordonnateur national des communicateurs républicains COREP en sigle. Ce dernier estime que les refus ou les retards dans la convocation du dialogue national risquent de détériorer davantage la situation sécuritaire en RDC. Pour Désiré Ntahira, il y a urgence pour la convocation d'un dialogue national et inclusif.
Vous assure que des craintes sont multiformes. D'abord, la crainte sécuritaire. Pourquoi ? La guerre est à la porte. Donc, ce n'est même plus à la porte. C'est à la porte de certaines provinces qui ne sont pas encore conquises. Cette guerre-là, lorsqu'elle doit continuer, et elle doit continuer encore à pénaliser le pays et le peuple en par ricochet. Ce qui fait que la première crainte, c'est la crainte sécuritaire. Deuxième crainte, c'est la crainte politique, parce qu'il y a des divisions internes. Troisième crainte, c'est la crainte sur le plan développement. Donc, à ce niveau-là, la seule possibilité ou à laquelle le président pouvait passer, si réellement il a le souci pour que le peuple, n'est-ce pas, retrouve la paix, qu'il convoque le plus vite possible.
Entre-temps, dans un point de presse tenu mercredi à Kinshasa, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolenge Tenge, membre de la C64, a fait savoir que si le dialogue n'est pas convoqué avant le 15 août, l'opposition se réunira et annoncera des grandes activités sur le terrain. D'autres sources citées par le média Jeune Afrique indiquent que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a amorcé des tractations avec des représentants de l'Église et des membres d'une commission spéciale mise sur pied pour évoquer les contours des futures assises. Et la communauté Banyamulenge demande que justice soit rendue en faveur des victimes du massacre de ses membres survenus en 2004 à Gatumba au Burundi. Cette demande vise notamment à préserver la mémoire des victimes, établir les responsabilités et lutter contre l'impunité. Message lancé lors d'une activité organisée pour commémorer le 22 ans depuis que ce drame a été enregistré. Les précisions avec Myriam Moufano.
Selon René Zeroua Vincent, vice-président de la mutualité Chikama de la communauté Banyamulenge à Bukavu, cette commémoration était une occasion d'honorer la mémoire des victimes et de rappeler les conséquences de ces violences. Il déplore qu'aujourd'hui encore, des membres de cette communauté continuent d'être victimes de discrimination. René Zeroua Vincent estime que ces pratiques risquent d'entretenir des divisions et la méfiance au sein de la société, alors que les Banyamulenge, comme les autres communautés, ont droit à la sécurité, à la dignité et à l'égalité. Il appelle les autorités nationales et internationales à s'impliquer davantage afin de promouvoir la justice, la protection des droits humains et la cohésion sociale. Il en parle dans cet élément.
Notre message s'adresse à la communauté internationale. Puisque les gens qui ont été massacrés à Gatumba, ils étaient dans les mains des Nations Unies. Le message, au-delà que ce soit sur le plan international, les crimes d'eau, les massacres, les génocides, c'est de la compétence de la CPI. Et là, le pays, en tant que la RDC, doit toujours défendre ses citoyens. Nous exigeons à ce qu'ils puissent saisir non seulement la juridiction internationale, que les coupables soient traduits devant la justice.
De leur côté, les survivants du massacre témoignent les souffrances vécues et appellent à tirer les leçons de cette tragédie. Pour eux, les violences entre communautés ne font qu'approfondir les blessures et fragiliser la cohésion nationale. Ils plaident ainsi pour le vivre ensemble, le respect mutuel et le rejet des divisions fondées sur l'appartenance ethnique. L'une des survivantes, Bintou Lydia Muyoboke, témoigne dans cet élément.
Nous demandons à l'État congolais de nous aider à trouver les auteurs de ces crimes pour qu'ils soient punis conformément à la loi, car certains d'entre eux ont reconnu. Ce n'est pas bon de haïr quelqu'un pour raison d'appartenance ethnique jusqu'à lui arracher la vie sans motif valable. S'entretuer parce qu'on appartient à tel ou tel autre clan n'est pas une solution. Aimons-nous, évitons les tueries, bannissons la haine, car nous sommes tous un.
Cette activité a réuni plusieurs personnalités autour de la nécessité de préserver la mémoire des victimes, de promouvoir la justice et de renforcer la paix et la cohabitation entre les différentes communautés, indiquent les organisateurs.
Et sur le terrain, les affrontements entre les forces armées de la RDC appuyées par les Oazalendo et les troupes de la FSAM-23 se sont poursuivis jeudi 13 août 2026 dans plusieurs villages des hauts plateaux de Calais, principalement autour et à l'intérieur de la cité minière de Lumbishi. Des sources locales indiquent que depuis tôt le matin de jeudi 13 août, des combats se sont intensifiés entre les deux antagonistes, principalement autour de Lumbishi, Shanje, Bishaka et Kavumu. Ces entités sont vidées de leur population depuis près de deux jours. Des sources locales annoncent une avancée des troupes Oazalendo qui auraient repris le contrôle des zones comme Chambombo, Bishaka et une bonne partie de Lumbishi. La zone reste sous tension, indiquent des défenseurs des droits humains dans la zone qui parlent d'un recours à l'artillerie lourde. Au passage, des dizaines de civils auraient perdu la vie alors que les populations des zones concernées sont en débandade, déplore notre source. Et des centaines de déplacés en provenance des hauts plateaux de Fizi et Mwenga sont actuellement dans une situation inconfortable dans la zone de santé des Nundu, secteur de Tanganyika, en territoire de Fizi. Ces déplacés avaient fui lors des combats qui avaient opposé les forces armées de la RDC et leurs alliés Oazalendo aux troupes de la FSAM-23, notamment à Itombwe, point zéro et dans les alentours des Minembwe. Sans assistance, ces déplacés vivent pour la plupart dans des abris, des fortunes et d'autres à l'air libre dans différentes aires de santé. Le responsable du service en charge des affaires humanitaires dans le secteur de Tanganyika appelle les organisations humanitaires et les autorités à apporter assistance à ces déplacés. Kaliata Antoine en parle dans cet extrait.
L'air de santé de Kangouli a accueilli les déplacés internes, aussi l'air de santé de Nakiel, l'air de santé de Rutabura, Katoke aussi a accueilli les déplacés internes. Nous avons aussi l'air de santé d'Abala aussi a accueilli les déplacés internes, aussi dans l'air de santé de Pungu. Nous demandons au gouvernement provincial de mener des efforts pour que les organisations humanitaires allaient assister les déplacés internes qui étaient accueillis au moyen du plateau du secteur de Tanganyika par les différents aires de santé. Et les déplacés internes ont besoin d'aide humanitaire, notamment vivres, les articles ménagers essentiels, les soins.
Kalieta Antoine, responsable du service en charge des affaires humanitaires dans le secteur des Tanganyika en territoire de Fizi. Et la société civile Sunayo du groupement de Bourale en territoire de Walungu déplore des actes de pillage perpétrés dans des maisons d'habitation de certains villages dans cette partie de la province du Sud Kivu. Dans un entretien avec Radio Mendele jeudi 13 août, cette structure souligne que c'est depuis samedi dernier qu'elle est entité en proie à l'insécurité causée par des porteurs d'armes non autrement identifiés. Parmi les villages touchés figurent Njove, Kiganda et Muraza 2 dans le groupement de Bourale. En cette période où plusieurs parents préparent la rentrée scolaire de leurs enfants, la société civile locale estime que ces actes ne font qu'accentuer la souffrance de la population qui du reste est déjà affligée par les affres de la guerre. Le président de cette structure citoyenne, Joseph Babouine, appelle les autorités à renforcer les mesures sécuritaires en faveur de la population. Il en parle dans cet élément.
Le cas de vol, d'extorsion des biens et de torture perpétrés contre la population du groupement de Borale, surtout dans les axes Njove et Muraza, ce sont des actes récurrents qui devraient attirer l'attention de ceux qui ont la sécurité des populations alarmée ces derniers temps. En date du 8 août 2026, samedi passé, vers 22h, il y a eu incursion des voleurs armés dans le village de Njove, suivi d'un pillage systématique des biens de grande nécessité. Plus de 5 villages ont été ciblés. Après avoir pillé, ces gens ont lancé des coups de cartouche, mais aussi ces gens proviendraient du mouvement de Walung, le village Manyogole, en passant par le village de Buenera. Buenera qui est proche du village d'Njove, traversant la rivière Nkaraju. Dans le village de Muraza 2, deux maisons ont été aussi visitées. Et nous continuons à déplorer auprès de la radio communautaire de pouvoir plaider pour nous.
Vous venez de suivre Joseph Babouine de la société civile du groupement de Bourale en territoire de Walungu. Et la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans certains villages situés sur la lisière du parc national de Kaouzi Biega Penkabe reste inquiétante. Ainsi, les mouvements dans ces zones doivent être limités afin de se mettre à l'abri des éventuels dangers. Ce message est de Beni Mushengezi, représentant du chef de groupement de Bougouré, au cours d'une réunion mercredi avec le chef des villages et la notabilité locale. Dans cette rencontre, il a rappelé qu'aucune opération ne doit être menée à l'intérieur du parc national de Kaouzi Biega, quel que soit le motif. Il demande au chef des villages d'instruire la population à ne pas fréquenter ces lieux devenus dangereux. Le représentant du chef de groupement de Bougouré, Beni Mushengezi, en parle dans cet élément.
Nous avons aussi constaté qu'il y a bon nombre de la population continue à fréquenter les Penkabe pour chercher des braises et les bois. C'est une pratique que nous avons déplorée et nous avons insisté là et nous leur avons interdit de cesser cette pratique-là.
Profitant de l'occasion, il a demandé aux habitants de sa juridiction de contribuer chacun en ce qui les concerne à l'amélioration de la sécurité dans son milieu en dénonçant tout cas suspect qui peut être à la base de l'insécurité. Vous suivez Radio Mendele dans quelques instants, la suite de ce radio-journal.
Chaque jour, elle se mobilise pour offrir à ses auditeurs et auditrices des informations à temps réel. Notre principale détermination, c'est de vous servir. Nous, c'est la Radio Mendeleo. Plus et mieux pour et avec ses auditeurs.
Changeant de chapitre à présent, les activités ont été perturbées ce jeudi 13 août sur une bonne partie du territoire de Mwenga dans la province du Sud Kivu à la suite de la convocation d'une journée ville morte par la société civile du milieu. Les activités commerciales ont tourné au ralenti à Mwenga Centre, Kamituga, Kitutu, Kibé, Lugushwa et plusieurs autres endroits. Pour la société civile, cette journée ville morte avait pour but de réclamer la réhabilitation de la route nationale numéro 2 et l'ouverture d'actions judiciaires contre certains éléments armés incontrôlés qui ont vandalisé des camions en plein travaux d'entretien de la route. La société civile a également réclamé l'ouverture d'un couloir humanitaire et sécurisé aux ONG humanitaires pour assister les populations en besoin. On écoute à ce sujet Lungele Itebo, président de la société civile Force Vive du territoire de Mwenga, qui remercie la population pour avoir observé cette journée ville morte.
C'est depuis l'annonce de la poursuite des travaux de réparation des points chauds sur la route nationale numéro 2, la population du territoire de Mwenga, surtout de la partie sous contrôle du gouvernement central, vivent dans une haute tension créée par certains évolués originaires du territoire de Mwenga qui s'opposaient à ces travaux sans fondement légal de base, par des prétextes déjà surmontés par l'État congolais en territoire de Mwenga. À partir de ce jeudi 13 août 2026, la population prouve qu'elle est capable de défendre ses droits en répondant massivement et vivement à l'appel de la société civile Force Vive d'observer une journée morte ce jeudi 13 août 2026 partout en territoire de Mwenga. Et aujourd'hui dont je vous parle, il n'y a pas eu des activités, pas de circulation de motos, même des camions. Population du territoire de Mwenga, soyons unis pour bien défendre nos aspirations.
Lungene Itebo, président de l'ancien civil Force Vive en territoire de Mwenga. Et dans la ville de Bukavu, les tronçons routiers de la commune de Kadutu connaissent un délabrement avancé qui rend difficile le déplacement d'un endroit à un autre. Selon les constats faits par Radio Mendeleo, chaque jour qui passe, les routes se défoncent. Bref, la situation va de mal en pis. Explication avec Alain Kabika.
Parmi les tronçons concernés, figure celui allant de la place de l'Indépendance jusqu'au marché des Kadutu, en passant par l'avenue industrielle, et celui allant de la place de l'Indépendance jusqu'au rond-point gendarmerie, en passant par l'endroit d'Yesu 1. Une autre partie délabrée est celle qui va de la place de l'Indépendance jusqu'à l'hôpital Docteur de Chiriri dans la commune de Bagira, en passant par Kantv et Busoka. Sur ces tronçons, la route est fragmentée en partie et des nids de poules se sont créés au point de perturber la circulation des engins roulants et des piétons. Suite à cette situation, les conducteurs des véhicules moto et tricycles dits Bajaj se disputent la portion de la chaussée encore en bon état, une situation qui cause parfois des accidents de la circulation routière. Dans ce même angle d'idée, il est difficile d'effectuer les transferts des malades en état critique vers des grands hôpitaux suite à la mauvaise qualité des routes. En témoigne un accident d'une ambulance constaté en fin de semaine dernière vers Busoka. À l'approche de la saison pluvieuse, des habitants de Bukavu estiment que les autorités devraient songer à la réhabilitation de ces routes pour éviter les entraves à la circulation. En attendant les débuts des travaux, certains préconisent la mise sur pied d'un système d'arrosage des routes pour éradiquer la poussière qui envahit même les maisons d'habitation. L'un d'eux, héros Claude Bahoguere, vice-président de la nouvelle dynamique de la société civile NDC Chiriri, en parle dans cet élément.
Je vais donner le cas d'exemple de l'ambulance de l'hôpital Docteur qui s'est écapé. L'impact socio-économique, la hausse brutale du coût du transport étouffe l'économie locale. La population complique l'accès aux médical à l'hôpital Doctoro pour les urgences médicales et isole progressivement les habitants. Nous recommandons aux autorités de bien vouloir retoucher, raser l'entretien total de cette route. La construction, si possible, et le créage systématique des gouttières sur ces tronçons avant le mois de septembre, les mois pluvieux que nous voulons bientôt commencer.
Pour lui, les efforts de réhabilitation des routes ne devraient pas se limiter à la seule commune d'Ibanda, mais elle devrait s'étendre dans d'autres communes et territoires du Sud Kivu pour l'intérêt de la communauté.
La revue de presse, Radio Mindelo Capte, vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
La progression inédite de la maladie à virus Ebola en RDC, des odeurs nauséabondes qui affectent la santé des habitants de Kamanyola en territoire de Walungu et des accouchements à domicile signalés dans plusieurs villages du territoire de Walungu font partie des sujets commentés par la presse jeudi 13 août 2026. La revue de presse avec Myriam Mofano.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'inquiète de l'accélération de l'épidémie d'Ebola qui touche l'Est de la République démocratique du Congo, tire radiookapi.net. Avec près de 4500 cas confirmés et plus de 2000 décès, en chair et ses médias, la maladie se propage plus rapidement que lors de précédentes flambées enregistrées dans le pays. Lors d'une conférence de presse tenue le 12 août à Genève, le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom, a dressé un constat préoccupant de la situation. Selon lui, l'épidémie actuelle progresse à une vitesse sans précédent et pourrait, si ses tendances se maintiennent, dépasser l'ampleur de la crise qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Déclaré officiellement le 15 mai, rappelle Radio Okapi, L'épidémie a connu une expansion fulgurante en moins de 3 mois. Le virus Bundibugyo, une souche particulièrement virulente du virus Ebola, s'est déjà propagé dans 5 provinces du pays et touche désormais 53 zones de santé. L'Ituri demeure l'épicentre de la crise sanitaire. Cette province concentre près de 90% des cas recensés et environ 80% des décès enregistrés. La transmission restait particulièrement active dans la ville de Bunia, capitale provinciale, ainsi que dans les zones de Rouen-Para et Nizi, où les équipes de santé poursuivent leurs efforts de surveillance et de prise en charge, conclut Radio-Okapi.net. Dans un autre sujet, Kabareactu.info annonce que les habitants vivant aux abords des ravins Kansinga et Namuraba dans la cité des Kamanyola en territoire des Walungu alertent sur les risques sanitaires liés aux fortes odeurs qui se dégagent de ces deux sites en pleine saison sèche. Interrogé par Kabareactu.info, plusieurs riverains affirment que ces ravins sont progressivement transformés en des potoirs sauvages. Des déchets ménagers, des résidus des produits agricoles, ainsi que d'autres déchets y sont régulièrement déversés, favorisant leur accumulation. Selon les habitants cités par ces médias, la stagnation des eaux, conjuguée aux fortes températures observées durant la saison sèche, accélère la décomposition des déchets, d'où les odeurs persistantes qui envahissent les quartiers environnants. Contacté par Kabareactu.info, un professionnel de santé confirme que l'exposition prolongée à un environnement insalubre peut avoir des conséquences sur la santé. Il évoque notamment des troubles respiratoires, des maux de tête, ainsi qu'un risque accru d'infection, tout en insistant sur l'importance d'une bonne gestion des déchets pour prévenir ces problèmes. Bouclons cette revue de presse par Qui voit venir, qui nous garde en territoire de Walungu où l'accouchement à domicile demeure une réalité préoccupante dans plusieurs villages. Loin des centres de santé, certaines femmes enceintes sont contraintes de donner naissance dans leur maison, parfois avec l'aide des proches ou des personnes issues de la communauté, faute de moyens de transport, des structures sanitaires suffisamment accessibles ou d'un accompagnement médical régulier. Une enquête menée du 28 juillet au 11 août 2026, citée par ces médias, les entités les plus concernées sont notamment les groupes des Luchiga, Irongo et Lurala. Dans ces entités, la naissance continue de se dérouler dans l'intimité de la maison familiale, alors que les risques liés à la grossesse et à l'accouchement nécessitent, dans de nombreuses situations, l'intervention de professionnels de santé. Derrière cette réalité se trouvent plusieurs facteurs qui se croisent. L'éloignement de formations sanitaires, les difficultés de déplacement, le manque de moyens financiers, l'insuffisance d'informations sur les complications obstétricales, et dans certains cas, la confiance accordée aux pratiques transmises des générations en générations, ainsi que le manque d'infrastructures routières. Pour certaines familles rurales, la naissance a longtemps été considérée comme un événement essentiellement familial et communautaire. Les femmes âgées, les proches ou les personnes reconnues dans le village pour leur expérience peuvent être sollicitées lorsqu'une femme entre en travail. Une grossesse qui paraît normale peut brusquement devenir une urgence. Une hémorragie, une hypertension sévère, une infection, une présentation anormale du bébé ou un travail prolongé peuvent mettre en danger la vie de la mère et de l'enfant lorsque la prise en charge spécialisée tarde à arriver, conclut Qui voit venir.
Alain Zara a assuré la mise en onde. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.